Radio Grand Ciel présente D'art et d'histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. C'est après avoir lu un article évoquant le château de Frazé dans Pays du Perche 25 que j'ai voulu rencontrer l'auteur de l'article, Elisabeth Gosseron. Reporter, rédactrice dans une agence de presse internationale, éditrice, après un master de recherche en histoire, elle s'est spécialisée dans l'étude du patrimoine. Elisabeth Gosseron, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors cet article sur le château de Frazé est fort intéressant avec de jolies photos. Alors pourquoi ce château est-il si remarquable ?
Alors, c'est d'abord un château qui présente une grande diversité architecturale puisqu'il est fondé sur un premier château post-médiéval, puis déconstruction du XVIe. Et en fait, il est disposé sur une sorte de terrasse qui présente des bâtiments éparpillés.
Oui.
Voilà, qui sont très emblématiques de plein de modes architecturaux, puisque même les bâtiments du XVIe sont différents les uns des autres, avec des styles architecturaux très différents.
Alors, on peut dire aussi que ce qui est assez remarquable dans ce château, c'est que c'est une longue histoire de femmes.
Oui, parce que finalement, avec très peu d'exceptions, il s'est toujours transmis par des femmes. Il a été vendu 3 fois en tout.
Oui.
Mais le reste du temps, il s'est transmis par les femmes, puisque presque toutes les familles qui l'ont eue n'avaient que des filles.
Voilà. Et Madame de Lauture, qui est l'actuelle propriétaire, a également 2 filles.
Exactement. Et elle-même est l'une des 3 sœurs et a épousé donc Monsieur de Lauture. Et donc l'histoire continue de la même manière.
Oui, c'est quand même assez...
Ah oui, pendant 5 siècles. C'est comme ça que ça s'est passé.
C'est quand même étonnant, oui. et très intéressant. Alors, peut-être ce serait bien que vous nous présentiez ce château pour nos amis qui ne connaissent pas Frazé. D'abord, où se trouve Frazé ?
Alors, Frazé, c'est entre Beaumont-les-Hôtels et Brou, donc dans le Perche-Gouët. Il y a une façon très intéressante et très spectaculaire de l'aborder, c'est par la Croix du Perche.
Oui.
Puisque quand on arrive, on a un panorama superbe avec à droite tous les bâtiments du château. Au-dessus sur une terrasse qui surplombe des prés. Et de l'autre côté, on a l'église. Et quand on rentre, on a vraiment l'entrée du château qui est dans le village.
Oui, ça c'est très, très intéressant parce que c'est assez rare. On pourrait dire aussi pour nos amis qui viennent de Paris qu'en sortant à Luigny,
oui,
ils vont trouver tout de suite...
Voilà, exactement, par l'autre côté, par Luigny, il est très proche de l'autoroute.
Voilà, donc un château très proche de l'autoroute, pour les Parisiens qui nous écoutent, eh bien, il ne faut surtout pas manquer ce très beau château qui a une très belle histoire que vous allez donc nous conter. Alors, il y a d'autres manoirs aux alentours, pouvez-vous nous en parler un petit peu ?
Il y a le manoir du Grand Carcahu, qui est vraiment très proche. On a aussi le manoir, voilà, le châtelier, le manoir du Cormier,
voilà.
Et l'église est superbe, elle est en restauration, je crois que la première tranche va se terminer bientôt, et c'est une très très belle église.
Donc si vous voulez, chers auditeurs, imaginez un petit village avec le château et l'église. Et le château, non seulement il est très beau, mais il est entouré de jardins.
Oui, il y a des jardins.
On voit tout de suite.
Voilà, des jardins à la française magnifiques qui ont été aménagés au 19e.
Voilà. Donc, une construction médiévale qui s'est enrichie au cours des siècles. Et ça, c'est très intéressant, toute l'histoire que vous allez nous raconter.
Voilà. Alors, ça commence donc avant la guerre de Cent Ans par une mode féodale, comme c'était le cas dans tous les châteaux. Donc, à partir de la défaite de Verneuil en 1424, je crois. Les Anglais ont déferlé sur le Perche, qui a été victime d'énormément de ravages. Et comme ses voisins, eh bien, la motte féodale de Frazé a été complètement rasée, le village incendié, l'église aussi, les habitants massacrés.
Oui, ça a été terrible, parce que c'est jusqu'à Brou, d'ailleurs.
Oui, jusqu'à Brou, et alors justement... l'histoire dit que les troupes anglaises étaient stationnées à Tiron, à l'abbaye de Tiron, et qu'ils avaient reçu pour mission d'aller incendier Brou,
oui.
Et ils se sont fait la main sur Frazé en passant. Donc voilà. Ça a été terrible.
Si bien que le château a été dévasté.
Complètement dévasté, donc il n'en restait rien du tout. Et sa propriétaire, qui était une dame de Maison Maugis, l'a mis en vente. Et il restait une seigneurie, des terres, mais rien du tout.
Alors peut-être peut-on parler aussi de Maison Maugis, parce que cette dame, Marie Riboul, elle était dame de Maison Maugis, et ça se trouve dans l'Orne. Peut-être pouvez-vous évoquer aussi Maison Maugis, ce très beau château.
Ah, le très beau château de Maison Maugis, oui, c'est un tout petit village, avec ce château magnifique qui a aussi un potager. C'est admirable.
Très beau potager.
Très, très beau.
Et je rappelle aussi à nos auditeurs qu'ils s'y donnent des concerts l'été.
Oui, dans la chapelle.
Qui sont très appréciés.
Concerts de musique classique très appréciés dans la chapelle contiguë au château.
Voilà. Donc, si je comprends bien, le château est complètement abattu, il ne reste rien. Qui va donc être à la renaissance de ce château?
Alors, ça commence en 1490. Florentin Girard, qui est seigneur de Barenton, épouse Marie Chollet.
C'était aussi le chambellan d'Henri III?
Non.
Non? Ah bon? Et alors, c'était...
Il était chambellan, je crois. C'était un personnage important, proche de la cour.
Oui.
Il a surtout épousé une femme très fortunée, Marie Chollet, qui était veuve de Louis de Courcillon, qui était seigneur de Dangeau. Voilà, grande famille. Donc, ils ont racheté la seigneurie de Frazé. Dans un premier temps, ils relèvent le village et les fortifications.
Alors ça, c'est à quelle époque?
C'est fin 15e, en 1490.
Oui.
Voilà. Pour défendre le village, ils détournent la rivière de la Foussarde, creusent des canaux pour entourer le village, voilà, pour le défendre d'éventuelles nouvelles attaques. Et puis, en 1493, comme c'était l'usage, ils demandent l'autorisation à son suzerain, qui était le duc de Nemours, baron de Broux. Il demande l'autorisation, il obtient l'autorisation en 1493, de construire un château fort. En fait, c'est pas vraiment un château fort, parce que là, on est à une époque qui n'est plus vraiment défensive. C'est l'époque de l'architecture d'Amboise, par exemple.
Oui.
Donc, c'est une structure médiévale défensive, c'est vrai, parce qu'il y a une haute cour et une basse cour, avec des murs d'enceinte.
C'est-à-dire que là, déjà, on est à la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance.
Oui. Complètement. C'est vraiment l'époque, le début de l'époque des constructions des châteaux de la Loire. Donc le style est très flamboyant, gothique, voilà.
Défensif.
Il est défensif, mais plus comme une tradition.
Voilà, c'est ça.
Voilà, dans la décoration, on est déjà dans la Renaissance. Donc c'est ce que montre vraiment le château ancien de Frazé, puisque donc cette première structure, c'est une haute cour. Et puis une basse cour. Alors la haute cour, elle est composée d'un châtelet. En fait, ce sont deux grosses tours qui forment l'entrée de la haute cour.
Oui, très jolie, en pierre blanche.
C'est magnifique, voilà, en pierre blanche. Et puis une enceinte avec des logis, en fait, des galeries qui rejoignent. C'est une cour carrée, assez petite, et des galeries qui rejoignent des tours d'angle. Alors aujourd'hui, il reste donc le châtelet, l'une des tours d'angle, un logis qui prolonge, enfin qui relie le châtelet à l'une des tours d'angle. Une des tours a disparu. En gros, il reste un petit peu plus de la moitié de ce qui constituait l'enceinte de la haute cour. Et il y a, en plus de ce châtelet, une grosse tour qui est magnifique et sans doute la plus belle de tout l'ensemble de Frazé, qui est la tour Saint-François.
Oui, très belle.
Très, très belle. Elle est composée de briques et de pierres blanches, en fait avec cinq anneaux de pierres blanches qui alternent avec les briques, et puis surmontée d'un étage à mâchicoulis. Et sur cet étage à mâchicoulis, il y a une cordelière sculptée, qui est en fait un signe de l'appartenance de Marie Chollet, la propriétaire et constructrice du château. Elle appartenait à cet ordre de la Cordelière, voilà, qui était un ordre qui avait été fondé par le dernier duc de Bretagne et puis qui était devenu français.
Et Marie Châtelet était entourée de son musicien, je crois.
Oui, alors il y a cette effigie qui rappelle Marie Chollet sur cette tour Saint-François, et puis surtout au-dessus de l'arcade qui formait la porte d'entrée du châtelet, il y a effectivement l'effigie de Marie Chollet, avec d'un côté son musicien, avec sa flûte. Et puis de l'autre côté, c'est assez original, un petit peu fantaisiste, son fou qui a un bonnet d'âne.
Voilà. Voilà.
Donc elle a voulu sa marotte. Donc elle a voulu se représenter finalement deux fois. Et donc ça, c'est un peu un signe précurseur de l'importance des femmes dans Phrasé, parce qu'on n'a aucune trace de Florentin, son mari, mais elle est présente deux fois sur cet ancien château.
Oui, c'est quand même une marque.
Voilà, ça annonce un peu ce destin féminin du château.
Alors, il y a aussi une tour qui est qui est surmonté des briques.
C'est-à-dire la tour Saint-François ?
Oui.
Oui, bien sûr. Donc, cette tour Saint-François, c'est cette fameuse tour qui est très, très large, voilà, avec une base très, très robuste et une très belle toiture conique. Et donc, c'est elle qui porte la fameuse cordelière.
Alors, depuis plus de 5 siècles, en fait, ce sont des familles très prestigieuses qui sont à Phrasé.
Oui. Alors, après les Girard de Barenton, ils ont un fils, eux. En revanche, ce fils n'a qu'une fille.
Jacqueline.
Qui s'appelle Jacqueline et qui épouse Charles d'Aux de Vérigny. Alors, Charles d'Aux de Vérigny, c'est le frère d'un célèbre mignon d'Henri III. Et alors, Jacqueline et Charles d'Aux de Vérigny, donc l'histoire des filles commence, n'ont qu'une fille.
Et c'est eux qui vont augmenter le château.
C'est eux, voilà, qui trouvent... Donc, c'est une famille prestigieuse. Ils trouvent que la haute cour est trop petite. Donc, elle était entourée d'une basse cour, mais cette basse cour ne comportait que des murs d'enceinte. Et là, donc, au milieu du XVIe siècle, ils font appel notamment au très célèbre architecte Métezeau. En fait, c'est une dynastie d'architectes originaires de Dreux, qui ont fait énormément de châteaux
la place
près
des
de Dreux. Plus tard, alors c'est pas celui-là, mais
c'est la famille,
voilà,
oui,
cette famille, la place des Vosges, et puis la place ducale de Charleville aussi.
Ah oui.
Donc ils n'ont pas seulement sévi dans la région de Dreux et la région parisienne, ils sont allés au-delà. Et donc ça, c'est le bâtiment le plus important, oui, du XVIe siècle, de cette étape de construction. C'est une porterie et c'est le bâtiment que l'on voit quand on est sur la place du village, en face de la mairie. C'est cet énorme bâtiment qui, à l'origine, était donc un pavillon d'entrée surmonté d'un clocheton et qui comportait deux ailes basses. Alors, ces deux ailes ont été surélevées et remaniées au 19e. Voilà, il n'était pas aussi important au 16e.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Elisabeth Gosseron qui évoque pour nous le très beau château de Phrasé, château qui s'est transmis par les femmes. Alors Elisabeth Gosseron, vous étiez en train d'évoquer pour nous cette construction en quelque sorte du château de Phrasé. Alors je rappelle que Phrasé se trouve à la sortie de l'autoroute, à côté de Luigny, ou encore très proche de la ville la plus proche, c'est Tiron je crois.
Tiron ou Beaumont-les-Hôtels ?
Beaumont-les-Hôtels. Okay, voilà. Bon. Alors, si vous voulez bien reprendre cette
donc construction. La base étant de la fin du XVe, donc un château type médiéval, mais à la charnière de la Renaissance, on avait une haute cour et une basse cour qui est agrandie au XVIe siècle par Charles d'Aux de Vérigny et sa femme qui est l'héritière des constructeurs de l'ancien château et qui décide donc au XVIe siècle de lui ajouter plusieurs bâtiments pour l'agrandir. Donc ce bâtiment très visible, magnifique par Métezeau, la famille d'architectes, donc qui constitue la porterie. Et puis on a d'autres bâtiments un logis côté prairie qui lui est très différent, alors que c'est exactement la même époque, mais il est d'inspiration antique, avec des fresques un peu à la romaine, qui est construit probablement sur les fondations d'un bâtiment du 15e, enfin du château initial, parce qu'on a retrouvé dans les sous-sols des cheminées gothiques. Une tour magnifique avec un toit en cloche qui prolonge ce logis. Et puis un colombier qui a malheureusement disparu au 19e siècle. Et voilà, donc c'est un ensemble de bâtiments qui s'étale sur ce qui était anciennement la limite de la basse-cour.
Voilà. Alors au 17e siècle, il va y avoir des changements.
Alors, au XVIIe siècle, donc on est passé toujours par les femmes, puisque le château se transmet par les femmes, à des familles illustres. Donc Hector de Chivray qui épouse une héritière de Frazé. Hector de Chivray est apparenté à Richelieu et en fait, ils ont une fille, encore une fois, seulement une fille, que Richelieu donne à Antoine III de Gramont. Alors, ça c'est en 1634. Antoine III de Gramont, il a une très belle carrière. Il devient maréchal de France, puis duc et pair de France. Et il a un rôle énorme auprès de Louis XIV, dont il était proche, parce qu'il a été ambassadeur en Espagne. Et c'est lui qui a arrangé le mariage de Louis XIV. Donc non seulement...
Avec Marie-Thérèse.
Avec l'infante Marie-Thérèse. Il est allé carrément remplacer Louis XIV à son mariage à Madrid, puisqu'il y a eu un premier mariage à Madrid. Et puis ensuite, il sera...
Avant
celui de Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Ça, et ouais. Il était évidemment à Saint-Jean-de-Luz avec son roi pour le mariage.
Alors là, il va y avoir une interruption quand même.
Oui, alors quand même, ils ont un fils. Donc c'est Antoine IV de Gramont, qui devient donc lui aussi propriétaire de Frazé. Lui, pareil, très belle carrière. Il est prince de Bidache, général des armées du roi dans la guerre de Hollande, ambassadeur extraordinaire auprès de la couronne d'Espagne, vice-roi de Navarre. Voilà, il a un magnifique parcours. Mais évidemment, à cette époque-là, la famille ne vient presque pas à Frazé. En fait, ce sont des gens qui vivent à la cour. La sœur d'Antoine IV, donc fille d'Antoine III, sera maîtresse de l'une des maîtresses de Louis XIV.
Oui, donc en fait, ils restent près du roi.
Voilà, quand ils ne sont pas sur les champs de bataille ou en ambassade à l'étranger, ils sont à Versailles, à la cour. Et... pour le château, c'est très dommageable, parce que petit à petit, il se dégrade. Voilà.
Alors, peut-être faut-il savoir aussi que la sœur d'Antoine IV, Catherine Charlotte de Gramont, qui était fort jolie, elle va servir d'intermède, je crois bien.
Oui, c'est ça. Elle était donc la maîtresse de Louis XIV, avant Athénaïs de Montespan.
Oui, c'est-à-dire qu'elle va servir d'intermède à Louis XIV, entre Louise de Lavallière et effectivement.
Voilà, ça n'a pas duré très longtemps, mais elle était très jolie et donc elle a eu évidemment une place de choix.
Donc, Frazé va se trouver associé au destin des familles illustres, puisqu'on est proche du roi, là.
Des familles illustres et puis qui ne sont pas du tout percheronnes, parce qu'il s'agit d'un château de villégiature. Et après les Gramont, c'est une autre famille qui est moins connue, mais qui est tout aussi prestigieuse à l'époque, la famille des ducs de Boufflers, qui sont originaires de Picardie. Parce que Antoine IV, encore une fois, n'a qu'une fille, qui épouse Louis-François de Boufflers, voilà, qui lui est maréchal de France, qui est fait duc et père du royaume, lui aussi. Dont Hyacinthe Trigault a peint un portrait. Voilà, donc c'était un personnage très important. Et puis, pour la première fois, le fils du duc de Boufflers vend Frazé en 1740 à un jeune homme qui s'appelle Gabriel de Villeroy et duc de Ray. Il est duc de Ray aussi. Donc ça, c'est la famille des gouverneurs du Lyonnais. Donc encore une fois, ce ne sont pas du tout des percherons.
Non, non.
Alors lui, il n'a pas de chance parce que en même temps que Frazé, il hérite d'un procès. Frazé avec plein de problèmes et il est en mauvais état et financièrement, c'est une catastrophe. Et donc, il est mineur à l'époque et conseillé par ses tuteurs, il est obligé de vendre, de détruire une partie de la haute cour. Donc, c'est à ce moment-là que les bâtiments disparaissent. Il vend les pierres et puis comme c'est pas suffisant, il est obligé de vendre carrément Phrasé en 1765 à un magistrat du Parlement de Paris qui s'appelle Louis-Lazare Thiroux d'Aronville. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, les Thiroux gardent Phrasé jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis,
Il va y avoir beaucoup de bouleversements quand même.
Oui, beaucoup. Alors, d'une part, il y a eu toutes ces destructions juste un peu avant la Révolution, donc à cause de ces problèmes de Gabriel de Villeroy. Gabriel de Villeroy qui se retrouve avec un des fils, Thiroux. Donc, c'est une ironie du sort. Ils sont guillotinés, ils partent tous les deux dans la même charrette vers l'échafaud. Mais on pense qu'ils n'ont pas su. Mais en gros, la famille, celui qui avait vendu Phrasé au Thiroux se retrouve avec le fils aîné Thiroux, voilà, sur l'échafaud. Ça, c'est une anecdote. Et puis le frère cadet, donc hérite de Phrasé. Lui, c'est André-Alexandre Thiroux de Gervilliers. Et pour qu'il ne lui arrive pas la même chose qu'à son frère aîné, eh bien, il se cache. Pendant la Terreur, on pense pendant peut-être 2 ans, dans des galeries sous le parc du château.
Oui, qu'on peut voir encore.
Les galeries, non.
Vous n'avez pas pu y aller.
Non. Et je pense que ça se visite pas. Je ne sais pas si elles existent encore, du reste. Et puis, c'est à ce moment-là, pendant qu'ils étaient cachés, que les villageois se plaignent des moustiques et obtiennent de faire assécher et reboucher les douves. Donc les douves n'existent plus, les ponts-levis sont supprimés aussi, puisqu'il y avait 2 ponts-levis, il y en avait un pour les voitures à cheval, et puis un juste à côté plus petit, puisqu'on voit une petite porte sur l'entrée du Châtelet, qui servait pour les piétons. Donc ces 2 ponts-levis disparaissent à cette époque-là. Donc c'est la famille Thiroux qui garde Phrasé. Eh bien, c'est encore une femme qui est obligée de le vendre. C'est une vieille demoiselle qui s'appelle Olympe, qui a vendu elle aussi les pierres, parce que Phrasé est toujours dans un état, enfin de nouveau dans un état lamentable, très délabré. Elle détruit à cette occasion le colombier du 16e.
Ouais, c'est horrible.
Oui,
ça,
c'est terrible. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont disparu comme ça pour des raisons financières.
Pour avoir de l'argent, il fallait détruire.
Pour sauver le reste, il fallait sacrifier certains bâtiments pour vendre les pierres. Donc ça, c'était l'un des bâtiments qui fermait la basse-cour et qui a donc disparu dans la deuxième moitié du 19e. Donc Phrasé est en vente. Et c'est Monsieur Dulon de Ronay qui l'achète en 1893. Et là, nous sommes dans la famille qui possède encore Phrasé. Donc Monsieur Dulon de Ronay, lui, venait, je crois, d'Eure-et-Loire. Et il cherchait justement un château à restaurer. Donc il a eu de quoi faire, puisque pendant 30 ans, il a fait des travaux énormes.
Mais c'est ça, il a acheté en 1893.
Voilà.
Et il va faire des travaux pour restaurer.
Pour tout restaurer, il y avait des arbres qui poussaient dans les toits. C'est lui qui a notamment aménagé les jardins à la française. Il a. Donc, ça, c'est à l'emplacement de la basse-cour.
Oui.
Et puis, la perspective qui part au-dessus de la prairie en terrasse vers les bois, eh bien, c'était un potager et il l'aménage en terrasse. Il refait donc beaucoup de toits, il recreuse les douves, ça c'est très important. Elles avaient été comblées donc vers 1840, déjà à la Révolution, et puis vers 1840 complètement comblées. Mais malheureusement, il n'a pas retrouvé beaucoup de pierres, parce qu'elles avaient été vendues. Les pierres qui retenaient les murs d'escarpes et de contre-escarpes, c'est-à-dire côté haute cour et côté basse cour.
Alors là, vraiment, on va retrouver les femmes.
Oui, puisque ce monsieur Dulon de Ronay n'a pas de fille, il n'a même pas d'enfant. Et en fait, c'est sa nièce qui hérite de Phrasé et qui épouse le marquis de La Sayette. Or, le marquis de La Sayette, encore une fois, n'a que 3 filles. Et donc, l'une d'elles,
Hélène.
Voilà, Hélène de Lauture, puisqu'elle épouse monsieur de Lauture, transmet Phrasé à son mari.
Enfin, alors, elle le partage avec ses
sœurs. Elle le partage, puisque Frasé est en indivision, oui, est encore ça. En indivision. Mmh. Donc, l'une des sœurs, des belles-sœurs, pardon, de Monsieur de Lauture habite le bâtiment 16e de style antique. Mmh. Une autre de ses belles-sœurs habitait le pavillon d'entrée, donc porterie. Voilà, elle est décédée. Et alors, monsieur et madame de Lauture habitent le Châtelet, voilà, qui est de nouveau complètement habitable. Alors, il faut noter que dans l'une des tours, il y a encore une petite prison et puis la chambre du gardien au-dessus. Mais le reste a été aménagé en maison d'habitation.
Oui, c'est très joli.
C'est très, très joli. Le château a été classé en 1948. Et à partir de cette époque, monsieur de Lauture a refait une série de travaux, parce qu'il fallait recommencer, ça n'arrête pas.
Et oui.
Et là, eh bien, comme le château avait été classé, il a fallu qu'il s'arrange avec la DRAC pour trouver des artisans qui lui étaient imposés, mais il a réussi à faire travailler des artisans locaux quand même. Lui-même a refait beaucoup de choses. Il a fait, par exemple, le toit en cloche du puits qui est dans la haute cour. Et il a travaillé beaucoup lui-même, de ses mains.
Parce mais les jardins, les buis sont taillés par lui.
Exactement. Bien.
Peut-être moins maintenant, mais...
Oui, il a fait beaucoup, beaucoup. Il montait sur des échelles sans arrêt pour remettre des tuiles.
Ah oui, il a vraiment des connaissances en maçonnerie, en charpente.
Exactement.
Oui. Il s'est beaucoup intéressé à tout cela.
Ah oui, il a repris complètement à cœur ce château de la famille de sa femme et il y a fait beaucoup. Et depuis quelques années, je crois depuis 2009, mais même avant ça, il fait visiter le château. Il aime beaucoup le faire visiter. Oui. Et il a toujours été très impliqué dans le village de Frasé et il accepte volontiers de le faire visiter, surtout pour les journées du patrimoine. Voilà. Parce que les journées du patrimoine sont devenues un peu la fête du village de Frasé et se déroulent dans le château, dans la cour du château, avec des tas de spectacles, un concert de musique classique avec animation pyrotechnique. Voilà, ce sont des très, très belles journées.
Oui, et il faut dire qu'ils se sont beaucoup impliqués dans la ville, dans le village, et parce qu'ils ont fait beaucoup aussi. Et effectivement, les journées du patrimoine, ce sont les journées importantes pour le village de Frasé.
Oui.
Alors, il a deux filles.
Oui, l'histoire continue.
Oui.
Il a deux filles qui ne sont pas mariées, voilà. Et donc, on ne sait pas ce que va devenir Frasé, mais le château est donc en indivision, il y a aussi ses neveux.
Donc, chers auditeurs, eh bien, je vous conseille fort d'aller visiter Frasé. Monsieur Claude-Charles Lauture sera très heureux de vous faire visiter son château qu'il adore. Un grand merci, Elisabeth Gosseron.
Merci.
Je crois que nos auditeurs auront à cœur d'aller visiter ce très beau château de Frasé. À bientôt, j'espère.